Bonsoir à tous. On est là, on vous écoute et on vous croit, vous ne serez plus jamais seul. Déclaration d'Emmanuel Macron ce soir aux victimes des violences sexuelles sur mineurs dans une vidéo postée sur son compte Twitter, vous l'entendrez. Ça y est, l'objectif du gouvernement est atteint. 1 million de Français vaccinés une semaine avant la fin du mois. La ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher reste confiante sur la livraison des vaccins. En Russie, près de 1600 manifestants ont été arrêtés. Aujourd'hui, ils se sont rassemblés à Moscou et dans 65 villes pour demander la libération d'Alexei Navalny. Des milliers d'interviews, une carrière de plus de 60 ans, une icône de la télévision américaine. On reviendra sur la mort du journaliste Larry King qui s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 87.
France Inter.
Il faut adapter notre droit pour mieux protéger les victimes d'inceste. Les mots ce soir d'Emmanuel Macron, le président qui publie une vidéo sur Twitter dans laquelle il se félicite que la parole se libère dans les livres, les journaux, sur les réseaux sociaux également. Écoutez le président.
Il nous faut entendre, recueillir les témoignages des victimes, même des années, des décennies après. Il nous faut les accompagner. Il nous faut punir les criminels pour leurs actes passés et pour empêcher toute récidive. La honte, aujourd'hui, change de camp. Et à vous qui vous êtes libérés d'un fardeau que vous avez trop longtemps porté, à vous qui allez le faire et parfois hésiter, je veux juste vous dire, on est là, on vous écoute, on vous croit. Et vous ne serez plus jamais seul.
Le président Emmanuel Macron et le ministre de la Justice commencera à recevoir les associations dédiées à la protection de l'enfance à la chancellerie dès lundi. C'est ce qu'indique ce soir l'entourage d'Éric Dupond-Moretti après la vague de témoignages de victimes de violences sexuelles alors qu'elles étaient mineures. C'est fait. En France, 1 million de personnes ont été désormais vaccinées. Annonce de Jean Castex en fin d'après-midi. Ce matin déjà sur France Inter, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher avait promis qu'il n'y aurait pas de retard dans le plan de vaccination. La ministre a également répondu à la polémique sur le nombre de doses disponibles dans un flacon de vaccin. Le laboratoire Pfizer-BioNTech a annoncé que dans un flacon, il y avait finalement 6 doses et non 5. Ce qui ne doit pas encourager le laboratoire à livrer moins de doses. Au contraire, dit Agnès Pannier-Runacher.
Ce n'est pas Pfizer qui a décidé qu'il y avait 5 doses ou 6 doses dans le flacon. C'est l'autorité européenne à la demande des pays européens. Pourquoi ? Parce que quand Pfizer a livré ses flacons, divine surprise, on s'est aperçu que ces flacons pour lesquels il nous comptait 5 doses pouvaient permettre d'en extraire une 6e. Certains prétendent même qu'on peut en extraire une 7e dose. Et donc les pays européens se sont dit c'est la bonne occasion de gagner 20% de capacitaire et d'avoir plus de doses. Et évidemment, Pfizer compte en doses, c'est-à-dire que son contrat est établi sur un nombre de doses. L'enjeu aujourd'hui, c'est de se dire que Pfizer, du coup, a une meilleure capacité de production. Et donc, s'il peut produire un peu plus, autant qu'une partie de cette production supplémentaire aille plus vite
donc là, c'est
dans
en discussion.
Le giron européen.
Et concernant la vaccination, justement, il y a cette nouvelle recommandation de la Haute Autorité de Santé. Elle préconise de faire le rappel 6 semaines après la première dose au lieu de 3 semaines comme initialement prévu. L'objectif est de permettre de vacciner rapidement plus de Français alors que l'épidémie continue de progresser. Les variants s'étendent et poussent une grande partie de la planète à renforcer ses restrictions. En France, plus question de rentrer sur notre sol dès demain sans présenter au préalable un test PCR négatif. Le tour de vis est plus important pour les Belges. Eux ne vont bientôt plus pouvoir voyager en dehors de leur pays si ce n'est pas essentiel. La mesure entre en vigueur mercredi et ce jusqu'au 1er mars au moins. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dénonce une attaque d'une sauvagerie inouïe après le passage à tabac d'un collégien de 15 ans il y a une semaine à Paris. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. L'adolescent est toujours hospitalisé à l'hôpital Necker. Des interpellations à tour de bras par la police russe. Plus de 2000 personnes arrêtées de Moscou à l'extrême-orient russe en passant par la Sibérie. Des manifestants dans les rues de Russie pour demander la libération de l'opposant Alexei Navalny, arrêté dimanche dernier à peine arrivé de Berlin, où il était en convalescence après avoir été empoisonné. À Moscou, Léo Vidal-Giraud.
Jusqu'à 40 000 personnes dans les rues de Moscou, plusieurs dizaines de milliers dans le reste du pays, sorties manifester pour exiger la libération d'Alexei Navalny. C'est beaucoup plus que ce à quoi s'attendaient la plupart des observateurs. La diffusion cette semaine sur la chaîne YouTube de Navalny d'une enquête vidéo dénonçant la construction d'un palais géant pour Vladimir Poutine a sans doute joué un rôle de détonateur. Artyom, la trentaine, s'est rendu à la manifestation à Moscou, armé d'un bouquet de brosses à WC, une référence à l'une des révélations de cette enquête, qui affirme que celle du palais de Poutine coûte 700 euros pièce.
Puisqu'une brosse coûte 70 000 roubles, j'ai en main 280 000 roubles. Je voulais en faire cadeau à Vladimir Poutine pour que son palais soit parfaitement équipé en brosse. Quand l'État et les institutions violent leurs propres lois, il n'y a que la société qui puisse les faire reculer, et la société n'a qu'une seule façon de faire entendre sa voix, c'est de sortir dans la rue pour montrer son mécontentement.
En province en particulier, où les manifestations d'opposition ne rassemblent en général que quelques centaines de personnes, ils étaient parfois des milliers dans les villes de Sibérie et d'Extrême Orient, a bravé le froid et les arrestations, nombreuses et violentes. Au total, plus de 1000 ont été recensés dans tout le pays, mais là non plus, le décompte n'est pas terminé. Moscou, Léo Vidal-Giraud, France Inter.
Et du côté de la communauté internationale, premier à s'exprimer sur le sujet, le Royaume-Uni, qui exhorte le gouvernement russe à respecter les engagements internationaux en matière des droits de l'homme. Pas un mot de la part de Vladimir Poutine concernant ses arrestations dans son pays. Le président russe a pris la parole, en revanche, pour saluer la mémoire de, je cite, du grand professionnel Larry King, qu'il avait interviewé plusieurs fois. Le journaliste et présentateur américain est mort ce matin à l'âge de 87 ans, après avoir contracté le coronavirus. Larry King et ses bretelles étaient sans doute le plus connu des intervieweurs de la télévision américaine. Grégory Phillips.
Tonight. He's robbed, he's shot. Entre 1985 et 2010, chaque soir sur CNN, Larry King reçoit les plus grands. Ici, Prince en 1999, les présidents américains, les célébrités, celles et ceux qui font scandale aussi, et à peu près tous les dirigeants de la planète. Il est ici en 2009 avec l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad. Larry King, né dans le quartier de Brooklyn à New York en 1933, avait débuté sa carrière sur une radio de Miami avant que son Larry King Show soit repéré et diffusé nationalement, puis finalement adapté pour la télévision. Voici comment il décrivait son métier d'intervieweur. J'ai beaucoup de chance de gagner ma vie en faisant quelque chose que j'adore. Mon job, c'est d'entrer dans la tête de ces gens et de comprendre ce qui fait d'eux des stars. À la fin des années 90, voici à quoi ressemblait le programme d'une semaine de Larry King sur CNN. Deux présidents américains en cinq jours, il les a tous reçus et interrogés, mais il était aussi fasciné par les stars hollywoodiennes, ici avec Marlon Brando en 1994. Can't refuse, darling.
Goodbye. Goodbye.
Ce matin, CNN est passé en édition spéciale pour saluer la mémoire de Larry King, qui en 63 ans de carrière a été décoré des plus grandes récompenses en matière de télévision. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis un mot enfin du championnat du monde des rallyes à Monte-Carlo avec un Français en tête, Sébastien Ogier, avant les dernières spéciales prévues demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Le temps demain, eh bien, il reste bien hivernal, Jean-Michel Golinski.
Un temps perturbé au goût hivernal ce dimanche. Au lever du jour, il faudra se méfier des sols rendus glissants en raison des températures proches de 0 moins 2 degrés. En journée, une nouvelle perturbation va traverser le pays d'ouest en est. Elle va probablement donner des intermèdes de neige jusqu'en plaine, de la Basse-Normandie au nord de la Seine, puis dans le quart nord-est. Dans la moitié sud, hormis la vallée du Rhône et les départements provençaux, il va pleuvoir. Le vent sera turbulent sur la façade atlantique et le pourtour méditerranéen. Enfin, il va continuer à neiger sur l'ensemble du relief à basse ou très basse altitude sur les massifs du centre et de l'est et vers 1000 mètres sur les Pyrénées et la montagne Corse.
Merci Jean-Michel Golinski de Météo France.